Bon, et pour laisser le temps à Étienne de se remettre de la Société nationale des chemins de fer, je vais avec joie prendre un petit peu la parole, mais trop empiéter.
J'espère bien, parce que tu
non,
sais...
Non.
Moi, je suis...
Ils sont là pour toi, pas pour...
Je suis venu pour répondre à tes questions et, à ceux, naturellement, des auditeurs et des assistants. Je ne suis pas venu faire une conférence avec un grand C. Hein. Bon.
Donc, on va procéder ainsi. J'introduis très rapidement ton travail en te remerciant déjà d'être venu. Ça fait
un bout
de temps qu'on essaye de te faire venir ici à Bordeaux. Bon, c'est pas le bout de la France, mais bon, voilà, dans cette librairie Mola avec laquelle on
magnifique,
a l'habitude de travailler, dans un cadre de réflexion ouvert par Fabienne Brugère et moi-même sur travail, sexualité et migration. Voilà, ici, qui est en fait l'idée ayant été de, après un certain nombre de péripéties politiques que l'on connaît maintenant depuis quelques années, d'avoir ouvert ce cycle de critiques autour de ces concepts pratiques qui ont à voir avec le travail, la sexualité, les sexualités et les migrations, pour ne pas utiliser la dénomination américaine classe, genre, race. Mais enfin, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et donc, forcément, ton travail, d'une manière générale, se situe totalement à l'intersection de ces différents spectres d'analyse et de pratiques. Et en particulier, ton dernier livre, « Citoyens, sujets et autres essais d'anthropologie philosophique », dont il se trouve que par un curieux hasard que j'ai eu la chance avec Bruno Carfanti d'éditer, non, un hasard un peu provoqué, beaucoup provoqué, mais enfin disons que ayant été toi-même le directeur de cette collection avec Dominique Lecourt avant, pratique théorique, tant plus heureux de pouvoir ici, un, d'avoir édité ton texte avec Bruno, et deux, de te rencontrer.
Forcée, hein, vous n'aviez pas le choix.
On n'avait pas le choix, non. C'était ce qu'on disait en aparté. Il fallait qu'on t'édite, mais bon, voilà.
Oui, il fallait que vous m'éditiez, parce que je t'interromps tout le temps, mais c'est pour gagner du temps, pour prendre mon souffle. C'est parce que quand cette collection a été fondée aux Presses universitaires de France en 1981... Le directeur littéraire des Presses universitaires de France, qui en est devenu ensuite le président, Michel Prigent, et dont je profite de cette occasion pour saluer la mémoire avec émotion, puisque malheureusement il est mort il y a quelques mois, juste avant la publication de ce livre, nous avait dit « c'est bien de fonder une collection, mais il faut que vous... » payer un peu de votre personne. Donc on s'était engagé l'un et l'autre à offrir un livre à la collection. Bon. Et dès cette époque, mais on y reviendra éventuellement, bon, je ne suis pas là pour raconter toute ma vie, j'avais envisagé en effet, j'avais proposé un livre sur ce thème dont la composition était déjà plus ou moins conçue suivant les mêmes principes. Bon. Et puis alors après, 20 ans ont passé, chaque année le directeur littéraire nous demandait si ça venait. Bon. Alors on disait oui, on y travaille, bon, on est très occupé, bon, etc. Et puis, en effet, il est venu un jour où Bruno Carcinti et Guillaume Leblanc ont eu la gentillesse, le courage, parce que les circonstances d'aujourd'hui, comme vous savez tous, sont difficiles pour des entreprises comme celle-là. Donc, ils ont eu ils ont bien voulu reprendre la direction de la collection. Et à ce moment-là, évidemment, le poulet vous est arrivé entre les mains. Vous n'aviez pas le choix. Allez.
Non, on est très contents et bon, on va discuter justement de ton dernier texte ce soir. On est là pour ça. Mais pour introduire très brièvement, je dirais que ton travail qui est essaie au fond de revisiter la question du sujet à partir d'enjeux politiques propres aux problèmes posés par la citoyenneté, l'affirmation de citoyenneté. Et donc cette tension que tu inaugures entre citoyen et sujet, dont le titre « Citoyen-sujet » ne rend pas tout à fait compte, parce que le titre semble suggérer une notion unifiant les deux termes, créant presque une nouvelle notion, citoyen-sujet, là où, me semble-t-il, tu travailles à reparcourir les tensions entre ces deux termes, entre ces deux pôles, d'une modernité qui est la nôtre, et qui assigne à la philosophie, justement, une tâche anthropologique majeure, d'où le sous-titre « Essais et autres essais d'anthropologie philosophique », qu'il ne faudrait pas comprendre par le fait que citoyen-sujet, ce serait hors champ de l'anthropologie philosophique. Au contraire, c'est citoyen-sujet en tant que problème d'anthropologie philosophique et autres essais d'anthropologie philosophique, puisque finalement, la question anthropologique se voit revisitée par les tensions entre le champ de la citoyenneté d'un côté et aussi celui de la sphère du sujet de l'autre. Tension qui avait déjà été ouverte dans une histoire du sujet, histoire entre guillemets que tu revisites et dont tu produis de nouvelles perspectives, notamment dans la première partie de ton livre, en repartant de l'hérésie cartésienne qui, on y reviendra sûrement, renverrait à un mythe d'un sujet cartésien que tu déconstruis de manière très, très savante, en insistant sur le contrepoint produit par John Locke quant à la question du sujet. Et ceci t'amène à, finalement, à amplifier une figure de la relationnalité du sujet dans une première partie qui, dans une seconde partie, donne lieu à une analyse de l'intersubjectivité ou en tout cas du commun des sujets que tu reconstitues principalement à partir des lectures de Hegel et de Marx, mais aussi de Tolstoï, pour en arriver dans une troisième partie à une réflexion sur les normes juridiques et politiques, par lesquelles, juridiques, politiques, morales aussi, par lesquelles, au fond, le sujet peut être recomposé en citoyen. Alors, ce parcours que tu mènes, l'un des charmes de ce parcours, c'est aussi qu'on peut le lire, par les études qui sont rassemblées dans ton ouvrage sur Descartes, sur Locke, sur Hegel, sur Marx, mais aussi sur Tolstoï, sur Blanchot, Foucault et d'autres. On peut donc lire à la fois ton texte par les noms propres, en quelque sorte, qui le composent et dont dont les différentes positions permettent de faire revenir un champ d'interprétation qui, justement, a le mérite de mettre en tension ces deux pôles du citoyen et du sujet. Mais on peut aussi le lire justement à partir de cette question citoyen-sujet et de la manière dont tu assumes la thèse, peut-être que tu pourrais repartir de là, dont tu assumes la thèse selon laquelle, suite à une question posée à plusieurs d'entre vous par Jean-Luc Nancy, la question de savoir ce qui vient après le sujet. La thèse selon laquelle, donc, ce qui vient après le sujet, selon toi, c'est le citoyen, ce qui n'implique pas du tout que la figure du sujet aurait disparu derrière ou celle du citoyen, mais qui implique plutôt un double devenir, un devenir sujet du citoyen et un devenir citoyen du sujet. Et ce sont, au fond, ces deux lignes-là que tu essaies de reconstituer pour montrer, au fond, que la question citoyenne, la question du citoyen, la question politique du citoyen ne peut être prise en considération que si on considère justement tout ce qui à la fois déborde le problème citoyen et lui redonne aussi une épaisseur, entre guillemets, subjective, au point que tu finis d'ailleurs ton ouvrage sur cette dimension du mal-être du sujet qui vient en quelque sorte, par un effet de clôture, justement refermer ce que tu avais ouvert avec la thèse de l'auto-énonciation du sujet. Donc, c'est à ce va-et-vient, entre guillemets, entre sujet et citoyen que que s'efforce d'arriver, par lequel ton livre va. Et de ce point de vue, du même coup, on comprend à te lire que toutes les questions de philosophie politique doivent être justement aussi traitées comme des questions d'anthropologie philosophique au sens large. Alors, ma première question, finalement, serait la suivante. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu entends par anthropologie philosophique et comment tu envisages, d'un point de vue justement, du point de vue d'une anthropologie philosophique, la question politique au sens large du terme, et puis de manière plus précise, la question de la citoyenneté ou du citoyen.
Merci. Bon, mais tu as déjà tout dit.
Non.
Des lecteurs comme ça, c'est un rêve. Bon. Bien, eh ben, je vais essayer de te répondre. C'est pas facile de parler d'un livre de philosophie un peu abstrait, il faut bien le dire, quand même. Bon. Inégalement lisible, d'après ce que je comprends. Je suis très content que tu dises que certaines des études qui le composent ont du charme. C'est par celle-là qu'il faut commencer, naturellement. Ma fille m'a dit l'autre jour, j'ai essayé de lire ton livre. Alors, je lui dis, c'est gentil. Bon, elle a fait des études. Hein. Bon, elle m'a dit, j'ai commencé par lire le chapitre sur Rousseau. Il y a un chapitre sur la Nouvelle Héloïse, un commentaire de la Nouvelle Héloïse. Tous les chapitres qui forment le centre, comme la partie centrale, comme tu l'as rappelé, sont des monographies, ce sont des explications de texte. Bon, je pense que dans la conversation, on aura l'occasion peut-être de revenir sur les présupposés ou les choix de méthode qui sont sous-jacents à ça. Mais enfin, il ne faut pas non plus croire que tout c'était planifié, délibéré, etc. Bon. Donc, elle me dit, j'ai commencé par lire ton chapitre sur Rousseau, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant. D'abord, il est question de littérature, enfin, la combinaison de la littérature et de la philosophie, c'est suggestif. Bon. Et puis, ensuite, j'ai voulu continuer. Alors, je suis passé à Hegel, et là, je me suis arrêté. Quand est-ce que tu cesseras de n'écrire que pour des agrégés de philosophie? Ça suffit comme ça, etc. Bon, alors, j'étais un peu déprimé. Bon, donc, c'est vrai que c'est pas très facile de parler. Ou alors, il y a une tentation qui est une tentation narcissique, qui est de se raconter, voilà pourquoi j'ai fait ce livre, voilà comment il s'est fabriqué, etc. Bon, je n'y échapperai peut-être pas complètement, mais je suis content que tu me poses des questions qui obligent à aller tout de suite au problème de fond. Bon, qu'est-ce que j'entends par anthropologie philosophique ? Le sous-titre du livre, c'est « Essai d'anthropologie philosophique ». Hein, bon. C'est une tournure un petit peu recherchée, si on veut, ou inhabituelle en français. Pas inintelligible, quand même, j'espère. Bon. Qui veut dire que c'est une matière que je travaille, que j'essaie d'élaborer. Bon. Il faut prendre on est à Bordeaux après tout, hein. Bon, cette référence, évidemment, tous les gens qui viennent parler ici doivent vous la servir, mais enfin, bon, je veux dire, on peut prendre le terme d'essai dans un sens qui après tout n'est pas tellement éloigné de celui de Montaigne, c'est-à-dire ce sont des expériences, hein, ce sont des expériences de réflexion et d'écriture inévitablement que je fais en m'appuyant moi-même sur des textes préexistants. Bon. qui ont une certaine, qui ont volontairement une certaine dispersion, une certaine diversité. Donc je ne préjuge pas, que pris tous ensemble et avec les commentaires que j'en donne, ils vont produire quelque chose comme une doctrine, certainement pas, ni même comme une problématique unifiée. Bon, autrement dit. Je dis qu'il y a de l'anthropologie au cœur de la tradition philosophique moderne. On reviendra sur ce qu'il faut entendre par modernité. Bon. Ce qui n'est pas une très grande découverte, tu vas me dire. Bon. C'est-à-dire que tous ces textes parlent de l'homme, on pourrait dire. Puisque anthropologie, par définition, c'est un terme qui signifie discours ou discours critique, discours réflexif sur l'homme ou sur la. Alors on est tenté de traduire tout de suite par sur la nature humaine, mais ça c'est déjà tirer les choses dans un sens qui appelle la réflexion critique. Bon, alors. Au fond, j'essaie de tenir un discours second, c'est-à-dire. Quel genre d'anthropologie, quel type d'anthropologie est à l'œuvre de façon toujours contradictoire en réalité, c'est-à-dire plus nourrie par des tensions, des conflits, ce que j'appellerais volontiers dans la terminologie de Foucault, c'est une expression que j'aime et énormément, à laquelle je tiens beaucoup, les points d'hérésie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire les points à partir desquels les discours divergent, hein, choisissent des orientations opposées. Bon. Donc quel type d'anthropologie profondément conflictuelle, par définition, est à l'œuvre dans la philosophie de l'époque moderne. Bon. Alors, il y a toute une série de questions qui sont impliquées là-dedans. Tu as dit tout à l'heure dans ta présentation, ces problèmes sont les nôtres. Hein. Je suis pas sûr que ces problèmes soient les nôtres. Hein. Bon. Une des questions que j'essaie d'instruire, on pourrait dire, hein, bon, dont j'essaie d'instruire les termes. En me situant évidemment inévitablement en contrepoint d'une des grandes querelles de la philosophie contemporaine, on pourrait dire qu'elle est balisée au fond d'un côté par la position de Habermas qui dit nous sommes plus que jamais dans la modernité. La modernité au fond c'est l'époque où à travers les voix de grands philosophes qui sont aussi en même temps des penseurs politiques bien entendu comme Kant ou bien même Hegel a été posé le problème de l'émancipation humaine ou de l'autonomie de l'être humain, à la fois comme problème moral et comme problème collectif ou comme problème politique. Bon, c'est pour employer l'expression dont il se sert, c'est un projet inachevé. C'est un projet inachevé. Bon. Donc, évidemment, par définition, nous sommes toujours dedans. Ou en tout cas, le moment n'est pas encore venu de dire que nous en sommes sortis. Bon. Et puis, de l'autre côté, toujours pour fixer les idées de façon un peu simplificatrice, il y a l'idée de la postmodernité. Mais je pense que dans ce genre de discussion, on a toujours intérêt à revenir au plus près des formulations originales. Des gens qui ont pris le risque, au fond, de lancer une idée sous une forme un peu provocante, un peu polémique, pour qu'elle fasse débat. Donc, en l'occurrence, en face de Habermas, on peut mettre la figure de Jean-François Lyotard et renvoyer au livre « La condition postmoderne ». Très beau livre et beaucoup plus lisible que ce que j'écris moi, mais enfin bon. Et ça date de quand, la condition postmoderne ? Ça date de 81, quelque chose comme ça, 1981. Ouais. C'est une date politiquement intéressante. Ouais. Non, mais ça n'a rien à voir. Peut-être. Bon. Si, ça doit avoir quelque chose à voir. Bon. Et alors que disait Lyotard ? Lyotard disait, au fond, cette. cette idée que le sens de l'histoire, hein, l'idée qui est au fond commune à Kant, à Hegel, à Marx, et à d'autres encore, avec des variantes intéressantes, bien sûr, bon, que le sens de l'histoire, c'est au fond l'émancipation collective de l'humanité, c'est ce qu'il appelait un grand récit. Il n'est pas allé dire que c'est un grand récit, c'est très voisin de dire que c'est un mythe. Bon. Donc dire que c'est un mythe, c'est pas dire que c'est une absurdité, évidemment. Bon, au contraire, toute société, toute culture, toute époque historique a essentiellement besoin de mythes ou de grands récits, entendu en ce sens-là, parce que c'est ceux qui permettent de donner du sens non seulement à nos existences individuelles, mais surtout à la façon dont nous les rattachons à celles des autres. Et à nous les inscrivons au fond dans une perspective commune et collective. Simplement par définition, en tout cas c'était la conviction qui animait toute une série de philosophes à cette époque, par définition, les grands récits entendus en ce sens, ils sont à la fois situés et datés. Bon, alors ce sur quoi on insisterait peut-être le plus à cause de l'importance prise à juste titre par la confrontation entre l'Occident et ses autres, à cause du surgissement au premier plan des études postcoloniales. Il faudrait quand même qu'on se décide à traduire, enfin on commence à traduire, bon, on traduit le livre de Dipesh Chakrabarty, « Provincialiser l'Europe », dont le titre est très évocateur. Il ne faut pas le mécomprendre, hein. ça veut pas dire l'Europe, ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Ça veut dire aller seulement une partie du monde. Bon, il faudra aussi inévitablement, on a commencé à traduire des livres de Gayatri Spivak, il est temps, évidemment, bien sûr, bon, mais on n'a pas encore traduit son grand livre dont le titre, de façon intentionnelle, évoque, de façon à la fois respectueuse et polémique, on pourrait dire, le modèle kantien, bon, qui s'appelle Critique of Postcolonial Reason, donc critique de la raison postcoloniale, avec toutes ces publications, l'accent est plutôt mis aujourd'hui sur le fait qu'au fond le grand récit de l'émancipation à travers la Déclaration des droits de l'homme, l'invention de la démocratie politique, l'idée de l'autonomie individuelle, etc., c'est une formation culturelle, je vais y venir, hein, parce que ça pose la question de l'universalité, mais qui a quand même qui a surgi en Occident et qui n'est pas dont on ne peut pas comprendre le sens indépendamment du fait que l'Occident, au même moment, a entrepris de dominer le reste du monde. Alors, à l'époque où Lyotard publie La condition postmoderne, l'accent est plutôt mis sur l'aspect temporel du problème que sur l'aspect géographique ou spatial. Et donc, ce que Lyotard voulait dire, c'est que ce grand récit n'est plus tout à fait le nôtre. Alors ça, c'est bon, ça veut dire que d'une certaine façon, nous ne pouvons plus y croire. Hein, bon, alors les raisons, bon, en tout cas, nous ne pouvons plus y croire sur le mode de l'évidence, hein, Bon, on peut plus y croire à la façon dont Kant y croyait, à la façon dont Marx y croyait, à la façon dont Husserl y croyait quand il a écrit, malgré le ton, la tonalité pessimiste qu'imposaient les circonstances en 1935, son livre sur la crise de l'humanité, sur la crise de l'humanité européenne. Bon, alors ce qui est intéressant, évidemment, dans le texte de Lyotard, c'est que Lyotard ne dit pas voilà à quoi il faut croire maintenant, hein, maintenant qu'on ne croit plus à l'homme ou qu'on ne croit plus à l'émancipation de l'homme ou qu'on d'autres le font ou leur effet. Bon, c'est plutôt une sorte de scepticisme qui ressortait, semble-t-il, de son livre, en tout cas une position critique. Bon, alors je reviens, vous savez, moi je suis un grand spécialiste des parenthèses dans les parenthèses. Bon, mes élèves à l'université, de temps en temps, trouvaient que c'était un peu compliqué de suivre, mais ils me disaient aussi ça. ça, finalement, on s'y retrouve. Bon, donc on va essayer de s'y retrouver. Bon, donc je reviens à ce que tu, disais. Ces problèmes sont encore les nôtres. Une des questions qui est sous-jacente à mon livre, c'est est-ce que ces problèmes sont encore les nôtres ? Hein, bon, c'est-à-dire que c'est d'une certaine façon la grande question de Foucault, que je reprends naturellement à mon compte, comment essayer de faire, alors il a employé des grands mots philosophiques pour ça, une ontologie historique de ce que nous sommes, etc. Bon, c'est-à-dire comment essayer de comprendre l'époque... ou les lignes directrices, peut-être les contradictions caractéristiques de l'époque qui nous fait être ce que nous sommes, hein, et qui fait que nous nous percevons d'une certaine façon. Bon, alors à cette question, j'ai pas de réponse, simple. Tu comprends, j'ai pas de réponse simple. Bon, je voudrais avoir quand même, une réponse négative, en tout cas une réponse de précaution. À la fin de ma préface, je me suis amusé à citer un bon mot qu'on rapporte un peu partout. Vous l'avez peut-être entendu, bon, certains d'entre vous le connaissent peut-être. J'espère qu'il est authentique. Enfin, il paraît que dans les années. C'était quand ça, dans les années 70, hein, bon, quand la Chine communiste s'est ouverte au monde extérieur et que les hommes politiques occidentaux ont commencé à rendre visite là-bas tous à Mao Tse-tung, à Chou En-lai, aux dirigeants de la révolution chinoise, des personnages un peu mystérieux évidemment, bon, on se demandait ce qu'ils pensaient de nous. Justement, comment il percevait cet Occident. Et alors, il paraît que Kissinger aurait demandé, mais d'après d'autres versions, c'est pas Kissinger, c'est l'ambassadeur de France, aurait demandé au Premier ministre Chou En-lai, Monsieur le Premier ministre, que pensez-vous de la Révolution française ? Ou que pensez-vous de l'héritage de la Révolution française ? Et alors, Chou En-lai, de l'air à la fois énigmatique et ironique d'un vieux sage chinois, lui aurait dit « il est trop tôt pour le savoir ». Bon. Alors, je rapporte ce bon mot à la fin de ma préface pour répondre un peu par une pirouette, pour me tirer par une pirouette de la question de savoir si ces problèmes typiques de la modernité sont encore les nôtres ou sous quelle modalité ils sont encore les nôtres. Bon. Et mais je pense que là, je peux aller un tout petit peu plus loin et dire au moins négativement que je pense qu'il est, je prends l'expression « il est trop tôt » dans un sens différent, il est trop tôt pour dire que ce ne sont plus les nôtres. Hein, il est trop tôt pour dire que ce ne sont plus les nôtres. Mais il n'est pas trop tôt pour se demander si d'autres ne sont pas en train de surgir, qui, sur le plan culturel, comme sur le plan politique, comme sur le plan philosophique, sont en train ou ont déjà commencé à modifier sérieusement le paysage. Bon, alors... Toutes ces précautions étant prises pour montrer que pour moi la notion d'anthropologie philosophique n'est pas quelque chose de donné, tu vois. Bon, il y a des philosophes aujourd'hui qui font. D'ailleurs, toi-même, tu es un très bon exemple. Hein, tu es un très bon exemple parce que dans le train, je relisais ton très beau livre Vie ordinaire, vie précaire. Que certains ici connaissent sûrement, bon, et que je conseille à tous de lire. C'est vraiment un très beau livre et très actuel. Et vers la fin, il y a une section qui s'intitule « Vers une nouvelle anthropologie philosophique ». Bon, donc tu proposes une anthropologie philosophique. Bon, et je te le reproche pas du tout. Bon, donc tu proposes une anthropologie philosophique. Alors, proposer une anthropologie philosophique, c'est pas nécessairement. On va sûrement revenir là-dessus dans la discussion. C'est pas nécessairement proposer une définition de l'essence de l'homme. Hein, bon. Mais c'est quand même nécessairement proposer un point de vue et une notion, au fond, une ou deux notions centrales, à partir desquelles réfléchir, au fond, sur la condition humaine, on pourrait dire les choses de cette façon, d'une façon qui permette à la fois, au fond, d'en saisir l'unité, on pourrait dire, bon, et puis en même temps les problèmes, hein, qui sont des problèmes abstraits, des problèmes spéculatifs, mais qui peuvent être aussi des problèmes de tous les jours, des problèmes moraux, des problèmes éthiques. Bon, alors la notion dont tu te sers, tu vois, là, je te mets à profit. Bon, la notion dont tu te sers, c'est celle de précarité. Enfin, plus exactement, c'est le couple de la précarité et de la vulnérabilité. Hein. Au fond, ce que tu nous dis, c'est que l'homme est essentiellement un être vulnérable, ce qui sous-entend qu'il est toujours dans un rapport de dépendance et donc aussi encore plus originairement, disons, de relation par rapport à un autre ou à d'autres, et que cette vulnérabilité, en quelque sorte de nature, hein, bon, qui est à la fois vitale et sociale, qu'on pourrait tenter d'appeler ontologique dans le langage des philosophes, bon, et susceptible de se transformer dans des conditions sociales déterminées en précarité. Et c'est parce que la précarité pour nous est un problème particulièrement redoutable dans les conditions d'aujourd'hui que, au fond, nous avons intérêt à faire le détour philosophique qui consiste à remonter à ce qui la rend possible, hein, c'est-à-dire qui expose l'être humain à une précarité plus ou moins grande. Et alors ça, c'est un projet d'anthropologie philosophique, hein, dont les résonances politiques et en même temps les connotations morales sont tout à fait évidentes et d'ailleurs, à mon avis, extrêmement, extrêmement positives. Alors, évidemment, comme moi, à la fin de mon livre, je débouche sur une constellation de notions qui ont aussi à voir, bien entendu, avec une façon de faire en quelque sorte le portrait de la condition humaine. Bon, mal-être, tu l'as cité tout à l'heure. Mal-être, c'est un jeu de mots. Je fais beaucoup de jeux de mots dans ce livre. Bon, c'est un jeu de mots qui me permet de jouer au fond sur deux étymologies ou deux traditions philosophique, c'est d'un côté une des traductions anciennes datant du 17e siècle, en fait, de la notion qui est au centre de la philosophie de Locke, l'uneasiness, qu'on traduirait plutôt aujourd'hui par l'inquiétude, mais qu'on pourrait aussi traduire par le malaise, hein, bon, donc le mouvement perpétuel. Et puis de l'autre, évidemment, si on pense plutôt à l'allemand qu'à l'anglais, c'est une façon possible de rendre quelque chose comme Unwesen, et alors et un des sens courants de ce mot en allemand, c'est le monstre, hein, c'est le monstre ou c'est l'anormal, si on veut. Bon, donc tout ça sonne pas très très optimiste évidemment, mais c'est pas non plus du pessimisme facile, j'espère. Bon, donc au fond, on pourrait penser que ce sur quoi je débouche à la fin, c'est une idée qui au fond n'est pas tellement loin de la tienne, peut-être, à certains égards, ou qui en tout cas a des recoupements avec elle, qui ne serait pas quelque chose du genre, ce qui caractérise essentiellement la condition humaine, c'est la vulnérabilité qui l'expose à la précarité, mais c'est le malaise, hein, ou le mal-être qui interdit aux êtres humains à la fois... pris individuellement ou pris collectivement, de s'enfermer jamais d'une façon stable, hein, au fond, dans une normalité, dans une identité simple, dans une individualité isolée aussi, c'est un point très important, et qui, pour cette raison même, les expose en permanence à différentes formes d'aliénation ou de contradiction. Bon, et pourtant, c'est pas exactement ça que je veux faire, tu comprends. Bon, c'est pour ça que je me rends bien compte, c'est pas peut-être facile à suivre ou à comprendre, sauf à se plonger dans le livre. Ce n'est pas exactement ça que je veux faire. J'ai moins d'audace que toi, disons, où je suis devenu trop compliqué à force d'enseigner la philosophie. Mais ma question, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut tenir des discours sur l'homme, hein. Ce n'est pas quel discours sur l'homme est-ce que j'ai envie de tenir moi-même, hein, même si je ne peux pas y échapper complètement. Et c'est plutôt comment est-ce qu'on peut tenir des discours sur l'homme et pourquoi, à l'époque moderne, est-ce qu'on tient-on un certain type de discours sur l'homme, hein. Bon, alors je sais que j'ai trop parlé, mais laisse-moi ajouter un mot. Parce que quand même, autrement, ça restera trop énigmatique. Il faut revenir aux citoyens, évidemment. Il faut revenir aux citoyens sujet. Bon, alors, au fond, tout est parti. Bon. Il y a deux livres dans un. Bon, il y a deux livres dans un. Bon, tu l'as très très bien dit tout à l'heure. Bon, il y a un ensemble d'études. Bon, et elles sont dispersées par définition. Bon, elles ne produisent pas une conclusion unique. Bon, et puis il y a la question qui avait été posée au début, citoyen-sujet. Bon, et il y a la question. C'est pas une réponse, mais il y a la question un peu différente que je pose à la fin, qui est celle des différences anthropologiques et de l'universalité, que j'appelle tantôt civique, tantôt bourgeoise, mais on reviendra là-dessus. Bon, alors, le fond de cette affaire est le suivant. Hein, le fond de cette affaire est le suivant. Bon, il y a 89, ça fait combien? Ça fait 23 ans, oui, quelque chose comme ça. Non, plus. 30? Non, quand même pas. 89,
ça fait
22 ans, au moment du bicentenaire de la Révolution française. C'était pas tout à fait un hasard, évidemment. Bon, Jean-Luc Nancy avait eu cette idée géniale, de grand style philosophique, évidemment, comme dans les académies du XVIIIe siècle. Il avait dit, on va réunir un certain nombre de philosophes français de différentes générations, qui tous, d'une façon ou d'une autre, manifestement, sont préoccupés, prennent parti à cette grande querelle de l'humanisme qui nourrissait le débat philosophique de l'époque. Il y avait des heideggeriens, il y avait des structuralistes comme Althusser, Foucault était plus ou moins rangé là-dedans, à tort ou à raison, d'autres encore. Bon, ils étaient tous occupés à déconstruire le sujet. Bon, c'est-à-dire à critiquer au fond la notion du sujet maître de lui-même, du sujet souverain, comme on disait à l'époque. Bon, et tout ça était intrinsèquement lié au fond à l'idée qu'il fallait en finir, au moins sur le plan philosophique, mais ça avait des connotations politiques, avec un certain discours humaniste. Hein, bon, alors il avait posé la question sous cette forme : après le sujet, qui vient ? C'était une question extraordinairement retorse, parce que comme le sujet, c'est le nom, évidemment, du locuteur ou du sujet de la phrase ou de l'action, bon, dès qu'on répond quelque chose, c'est encore un sujet, par définition. Bon. Et c'était bien ce qu'il voulait faire, d'ailleurs. Bon. Et alors, à ce moment-là, moi, j'étais engagé dans des réflexions sur le sens, au fond, de la proclamation révolutionnaire des droits de l'homme et du citoyen. Bon. Et je m'étais convaincu, à tort ou à raison, que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'y a pas fondamentalement de différence entre ce que les révolutionnaires appelaient les droits de l'homme et ce qu'ils appelaient les droits du citoyen. C'est les mêmes. Si vous prenez la liste des principaux, c'est les mêmes. Liberté, égalité, fraternité n'est pas un droit. Hein, bon. Propriété, résistance à l'oppression, etc. Bon. Et donc, je m'étais dit, au fond, le sens de cet événement qui coupe la modernité en deux, d'une certaine façon, mais qui en même temps en révèle le sens, c'est d'établir une sorte d'équivalence, hein, sur le plan politique, bien entendu, sur le plan politique, juridique dans une certaine mesure, et politique, entre les propriétés de l'être humain, ou les qualités essentielles de l'être humain, et les capacités, comme on dirait aujourd'hui, hein, les capacités du citoyen. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a on perd toujours quelque chose quand on veut ou bien anéantir l'individu au profit de la collectivité, ou bien faire triompher la collectivité au détriment de l'individu, parce que tous ces droits sont indissociablement une façon d'autonomiser l'individu en faisant le participant actif d'une entreprise collective. Bon. Et ça ne me conduisait pas exactement à l'idée d'une anthropologie, ça. Bon. Seulement, quand Jean-Luc Nancy a posé sa question, je me suis dit tout d'un coup, mais ce mot de citoyen, d'où vient-il ? Excusez-moi. Voilà un lapsus intéressant. Ce mot de sujet, d'où vient-il ? Bon. Alors, évidemment, la corporation philosophique à laquelle j'appartiens, nous appartenions tous, avait une généalogie toute prête. Bon. Généalogie à laquelle, en particulier, Heidegger avait donné un lustre tout à fait extraordinaire. Bon. Et où la figure centrale était Descartes, l'inventeur du sujet, c'est-à-dire l'inventeur, au fond, d'un être de pensée, on pourrait dire, d'un être de pensée, et en même temps aussi bien entendu de volonté, qui se rapporte au monde, à la totalité du monde qui l'entoure. Dans une certaine forme de maîtrise, si vous voulez. Bon, maîtrise, ça ne veut pas dire, bon, on sait, maître et possesseur de la nature, ça peut vouloir dire la maîtrise technique, mais ça veut dire surtout la capacité de se le représenter dans sa totalité. Hein, donc, à travers l'exercice de la pensée, le sujet cartésien s'approprie, en quelque sorte, la totalité du monde. Et la tradition philosophique nous disait, c'est ça la naissance du sujet. Il y avait toute une série de grands textes philosophiques qui reflétaient ça. Hegel avait dit c'est comme un lever de soleil. Bon, Heidegger lui au contraire trouvait que c'était plutôt un moment négatif parce que justement ça faisait triompher une espèce d'intellectualisme. Il disait pas totalitaire. Hein, bon, mais enfin c'est bon. Et alors la catégorie de sujet qui était à l'œuvre ici, c'était celle qui venait de la tradition métaphysique. Bon, le sujet chez Aristote c'était la substance et maintenant chez Descartes, ça devenait la pensée, ou la pensée en première personne qui s'approprie le monde. Et moi, avec ma déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur l'autre côté de la table, là, et puis d'autres raisons que je vous passe, c'est pas la peine d'entrer dans tous les détails, et une espèce d'intérêt philologique, on pourrait dire, quoi, pour l'origine des mots, je me suis dit, mais le mot sujet, dans la plus grande partie de ses utilisations, ou dans une grande partie de ses utilisations, a une toute autre signification que ça. Hein, il a une toute autre signification que ça. C'est le sujet du roi, c'est le sujet du prince, c'est le sujet qui est assujetti à une certaine autorité ou à un certain pouvoir. Et évidemment, il se trouvait qu'à ce moment-là, et bon, bah, ensuite j'ai nourri la chose, ça occupe un chapitre du livre, mais on commençait à toute la philosophie française de l'époque, au fond, bon, et ça menait un peu au-delà de la querelle de l'humanisme, c'était déjà l'ouverture d'une autre problématique, était préoccupé avec des nuances variées, non seulement par la question du pouvoir, du rapport entre le sujet et le pouvoir, fameux texte de Foucault, le sujet et le pouvoir, était publié, je crois, écrit au début des années 80, mais plus généralement par la question de la suggestion ou de l'assujettissement. Je reviendrai là-dessus. Bon, au fond, l'idée sous-jacente, c'était, dès qu'on parle de sujet, la question qui est posée, c'est celle de la liberté, si vous voulez. Bon, mais la liberté n'est pas d'abord quelque chose qu'il faut essayer de réfléchir en rapport avec la substance sur le mode métaphysique, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir sur le mode politique. Alors, au sens large, évidemment, parce que le politique, ça inclut tout de suite aussi le rapport à la loi, donc le juridique, et puis ça inclut naturellement une très forte dimension théologique, parce que dans la tradition de l'Europe classique, le premier pouvoir dont nous dépendons, c'est celui du Créateur, la première loi à laquelle nous sommes soumis, à laquelle il nous est demandé d'obéir, ce sont les commandements de Dieu. Bon, même si ça devient une loi d'amour, là c'est plus compliqué, mais dans le christianisme, c'est quand même aussi un problème d'obéissance. Donc je me suis dit, au fond, le cœur de la question du sujet et toutes ces discussions métaphysiques nous égarent d'une certaine façon, ou en tout cas elles occultent quelque chose qui est plus fondamental, c'est le rapport au pouvoir, le rapport à la loi, c'est la question de l'obéissance. Bon. Et alors, à ce moment-là, évidemment, il était tentant, c'est ce que j'ai fait, sous la forme d'une sorte de provocation, il était tentant de se retourner vers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, non pas simplement... Alors, ce qui est le paradoxe de cette affaire, évidemment, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est aussi un texte sacré, d'une certaine façon. D'ailleurs, je pense que vous avez tous vu, dans les mairies ou dans les livres d'histoire ou ailleurs, ces représentations de l'époque de la Révolution française, ça a même continué ensuite, où on voit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dessinés sous la forme de tables de la loi qui sont comme les lois de Moïse. Bon, ça montre bien qu'il y a une dimension sacrée ou un rapport critique peut-être au sacré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne prêche pas l'obéissance. Elle ne prêche pas l'obéissance. Elle n'explique pas que la condition humaine est fondamentalement une condition d'obéissance. Et alors moi, j'ai sauté à la conclusion, évidemment radicale, un peu trop radicale, bien sûr. Ensuite, il a fallu expliquer les choses de façon un peu plus dialectique, qui était au fond la suivante. Ce que déclarent les révolutionnaires, alors les révolutionnaires, peu à peu, ça s'étend, naturellement. D'abord, la Révolution française n'est pas la seule, et puis on peut penser, je pensais toujours à l'époque, je pense d'ailleurs toujours encore dans une certaine mesure, que c'est une espèce de courant décisif, on pourrait dire, de la modernité. Bon, ce que déclarent les révolutionnaires, ce qu'énonce la Déclaration des droits de l'homme, c'est « les hommes ne sont plus des sujets ». Ne sont plus des sujets. Bon. En tout cas, ils ne sont pas essentiellement des sujets. Ils peuvent se trouver soumis à tel ou tel pouvoir, ils peuvent être obligés d'obéir au patron. Bon, puis il y a tous les problèmes que nous savons qui n'ont pas tardé à ressurgir. Pourquoi les femmes doivent-elles obéir à leur mari? Pourquoi les élèves doivent-ils obéir à leur professeur? On n'était pas tellement longtemps après 68, hein, à l'époque. Bon, toutes ces questions se posaient naturellement, et elles se posent plus que jamais. Mais c'est plus une condition métaphysique, si vous voulez. C'est plus une condition ontologique. Bon, c'est un rapport de force ou c'est une institution sociale, comme dit très bien la Déclaration des droits de l'homme, les distinctions ne peuvent être justifiées que par l'utilité commune. Alors on peut dire c'est utile qu'il y ait un chef de famille, c'est utile que les professeurs aient de l'autorité sur leurs élèves, mais c'est pas quelque chose qui serait inné, si tu veux, comme dit la Déclaration des droits de l'homme. Bon. Et alors, quel est le mot dont se sert la Déclaration des droits de l'homme? Bon, pour, elle en a deux, justement. Elle a homme et elle a citoyen. Bon, mais le portrait en creux, en quelque sorte, de la condition elle-même qu'elle propose, c'est la capacité de devenir des citoyens, de s'autonomiser collectivement comme des citoyens. C'est ce que Hannah Arendt, un peu plus tard, appellera avoir le droit au droit. Et elle donne à cette expression la même radicalité. Bon, alors, évidemment, une fois que j'avais proposé cette réponse, qui était une façon... une sorte de réponse de berger, du berger à la bergère. Bon, j'étais obligé non pas d'en rabattre, mais de prendre la mesure des problèmes que tout ceci impliquait. Bon, ce sont les problèmes, en effet, de la société moderne. Permettez-moi de dire la société bourgeoise. Hein. Pour moi, l'expression « la société bourgeoise » n'est pas une expression péjorative. En tout cas, là, elle a une fonction essentiellement descriptive. Hein. Bon, c'est comme on parle, comme Marx parlait, des révolutions bourgeoises. Bon, et puis surtout, on peut se souvenir que « bourgeois », là encore, si on remonte à l'étymologie, c'est un mot qui... les bourgeois des villes, c'était les citoyens. Bon, donc il y a les deux faces. Bon, alors dans la société bourgeoise, effectivement, ceux qui sont en droit, qui ont le droit au droit, qui sont essentiellement définis d'abord par leur capacité de s'autonomiser ou de devenir des êtres autonomes dans le cadre d'une république ou d'une cité n'en sont pas moins en fait des sujets, c'est-à-dire qu'ils sont assujettis, comme dirait Guillaume, à toutes sortes de normes sociales, ou plus généralement ils sont obligés d'acquérir une personnalité, si vous voulez, hein. on n'est pas citoyen comme ça dans l'abstrait, hein. On est citoyen en réalité à travers sa capacité de remplir toutes sortes de fonctions qui font en quelque sorte la substance, la chair du citoyen. C'est pourquoi j'ai dit le problème philosophique devient à ce moment-là celui de savoir quel nouveau type de sujet, hein, ou quel nouveau type d'assujettissement, quel nouveau type de dépendance, si tu veux, et même d'obéissance, on pourrait dire, à la limite, ça passe au premier plan ou s'institue à partir du moment où la condition de droit, en somme, c'est la citoyenneté, ou c'est ce que j'ai appelé d'un mot valise l'égal-liberté, mais c'est le fait d'être libres et égaux en droit. Bon, et alors on aurait pu penser que c'était le point de départ d'une sorte de programme en somme phénoménologique, on pourrait dire. Ça peut être empirique ou ça peut être très abstrait. Quel genre d'homme est le citoyen de l'époque moderne ? Seulement, et je vais m'arrêter, avec le temps, parce que justement bon, d'une part, j'étais pas capable, et puis d'autre part, j'avais pas vraiment envie d'essayer de répondre à cette question sur le mode déductif. Hein, c'est ça. Bon, de fabriquer un système, si vous voulez. Hein, bon, je l'avais toujours présente à l'esprit. Alors quand je lisais Rousseau, ou quand je lisais Hegel, ou quand je lisais Freud, je me posais toujours la question de savoir quelle incidence, au fond, cette question du droit au droit ou de l'accès à la citoyenneté pouvait produire sur la lecture de leur texte. Et évidemment, ce qui est très étrange, Hegel, ça va, c'est tellement évident que ça va presque sans dire, mais ce qui est très étrange, c'est qu'on finit toujours... Il y a peut-être une part d'illusion là-dedans, mais on finit toujours par s'apercevoir que c'est complètement central. Bon, ceci étant dit, le temps passait et le paysage philosophique, on peut dire, se transformait d'une certaine façon. Alors, je n'oubliais pas ma question, mais peu à peu, elle se trouvait installée sur un autre terrain. Bon, et alors, dans l'essai qui conclut ce livre, j'essaie de dire quel est ce terrain. Bon, et il m'a semblé qu'il était possible de le faire sous la forme, à nouveau, un petit peu théâtrale, si vous voulez, ou un petit peu dramatique, qui consiste mais je pense que beaucoup seront d'accord, hein, je pense pas dire quelque chose de très original, qui consiste à dire à une querelle en a succédé une autre. La querelle qui préoccupe nos contemporains sur le plan philosophique, dans le sens le plus large, parce que ce plan philosophique a toutes sortes de prolongements et de ramifications, heureusement, en dehors des salles de classe et des universités, des travaux universitaires spécialisés. Quand on discute sur la laïcité, c'est de la philosophie, évidemment, c'est de la philosophie appliquée. Quand on discute des droits sociaux, pour savoir justement si c'est ou non des droits fondamentaux, c'est aussi de la philosophie appliquée. Mais donc dans ce sens large, je me suis dit, peut-être aussi parce que les frontières s'étaient ouvertes. Hein, parce que les frontières s'étaient ouvertes, hein, les frontières se sont ouvertes de différentes façons. On a tous commencé à discuter justement avec des gens qui dont la formation intellectuelle et culturelle n'est pas européenne. On a vu arriver chez nous les migrants dont tu parlais tout à l'heure, et puis ça c'est devenu un problème énorme. Donc je me suis beaucoup occupé, comme d'autres, en prenant les positions qui sont les miennes, dont je suis prêt à discuter. Bon, et il a commencé à m'apparaître que la querelle du jour, c'était plus tellement la querelle de l'humanisme, que la querelle de l'universalisme. Bon. Alors, évidemment, la France est le pays des querelles. Il y a eu la querelle des anciens et des modernes, il y en a des quantités. Bon. Mais, alors, c'est une élégance, peut-être, de style. Je ne sais pas si c'est efficace ou non. Mais je crois vraiment que c'est le cas. Hein. C'est une querelle. On pourrait dire le débat. Mais c'est un débat violemment contradictoire. Et c'est un débat dans lequel des questions philosophiques de fond sont en jeu. Alors, la forme sous laquelle... La forme sous laquelle on perçoit les choses au premier degré, c'est souvent la forme d'un choix. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'universalisme, ou l'universalisme républicain, qu'on appelle aussi quelquefois l'universalisme abstrait ? Et on sous-entend le plus souvent qu'il s'agit ou non, au fond, on oppose la notion d'universalisme à celle de différence, hein, ou à celle de différentialisme. On dit quelquefois particularisme, mais est-ce que l'important, au fond, c'est de reconnaître les différences et de faire des différences, je dirais, la dimension constitutive du sujet, ou est-ce que c'est au contraire de faire prévaloir une subjectivité politique, une identité politique plus abstraite, plus générale, dans laquelle les différences ne sont pas nécessairement... Alors c'est les différences ethniques, c'est les différences religieuses, c'est les différences de sexe et de sexualité, etc. Bon, sont pas nécessairement éliminées, bien entendu. Ça, à ce moment-là, ça serait un programme totalitaire. Mais relativiser, parce que c'est pas elles qui doivent définir précisément la capacité du citoyen. Alors je ne dis pas que cette question me semble fausse. Je ne dis pas que cette question me semble fausse. Mais il y en a d'autres, si vous voulez, là encore, du point de vue philosophique, qui me sont apparus comme préalables, si vous voulez. Bon. D'abord, est-ce qu'on peut parler de l'universalisme en général ? Est-ce qu'il y a un seul universalisme dans l'histoire ? Bon. Et de façon probablement pas très originale, mais enfin à laquelle j'ai donné une espèce de valeur de méthode, j'ai dit il faut bien comprendre ce qui singularise l'universalisme moderne ou l'universalisme bourgeois ou l'universalisme civique bourgeois, c'est-à-dire celui qui est justement centré sur ce rapport qu'on voit émerger en toute clarté, en pleine lumière, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, entre la personnalité humaine d'un côté ou la dignité humaine d'un côté, si vous voulez, et puis la capacité politique de l'autre. Bon, c'est pas la même chose que l'universalisme chrétien. Hein, bon, ou plus généralement que l'universalisme religieux des grandes religions monothéistes, bon, lequel n'est pas la même chose non plus que l'universalisme du cosmopolitisme antique. Bon, alors évidemment, ce qui est très intéressant ici, c'est que aucun de ces universalismes ne disparaît une fois pour toutes définitivement du paysage. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle je me dis que si aujourd'hui d'autres universalismes sont en gestation, auxquels contribuent des choses très différentes. L'écologie d'un côté, les préoccupations écologiques d'un côté, qui ne sont pas du tout humanistes par définition. Bon, puisqu'elles se préoccupent de la préservation de la nature, c'est pas la toute-puissance de l'homme. Bon, ou sous une forme peut-être moins, enfin plus problématique, l'universalisme de la finance, hein, bon, du marché, du marché financier mondial. Tout ça est sans doute en gestation. C'est pas pour autant que l'universalisme civique bourgeois va disparaître purement et simplement de la carte. Pas plus que l'universalisme religieux, chrétien, judéo-christiano, musulman, avec les nuances qui y a là-dedans, a disparu purement et simplement. Pas plus que le cosmopolitisme antique. Mais à chaque fois, il y a un principe différent. Bon. Et alors évidemment, le principe de l'universalisme moderne, de l'universalisme civique bourgeois, c'est... d'une part, que si vous voulez, il est fondamentalement humain, en effet. Bon, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'universalité de l'espèce humaine, il s'agit de la dignité de l'espèce humaine ou des capacités de l'espèce humaine comme centre, je dirais, perspective fondatrice, que Lyotard a appelé le grand récit. Hein, bon, l'émancipation humaine est le cœur et la puissance d'émancipation de l'espèce humaine est le cœur de cet humanisme bourgeois. Et c'est pas la révolution révélation divine. Hein. Ce n'est pas les commandements qui nous viennent de Dieu, même s'il y a des recoupements, bien entendu, des conséquences qui ne sont pas incompatibles. Par exemple, l'idée sur laquelle Badiou a beaucoup insisté dans son petit livre sur saint Paul, qu'on trouve déjà chez saint Paul que les hommes sont tous frères, on dit à l'époque, hein, bon, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre eux, entre les juifs et les païens, entre les hommes et les femmes, bon, faudrait aller regarder de plus près. Bon, quant à l'universalisme antique, c'est le cosmos qui est le principe, bon, c'est pas l'espèce humaine. Bon, alors donc, l'universalisme bourgeois est centré sur l'espèce humaine, et d'autre part, il a un principe justement essentiellement politique, ça j'y tiens beaucoup. C'est pas un principe théologique, c'est pas une révélation théologique. C'est pas non plus l'appartenance à la nature ou au cosmos, c'est fondamentalement la proposition, c'est très simple. Hein, bon, c'est la proposition qui est au cœur, qui est dans la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Hein, c'est la proposition de l'égale liberté. Après, débrouillez-vous, c'est-à-dire appliquez ça où vous pouvez, comme vous pouvez, aussi loin que vous pouvez. C'est ça le projet universaliste. Mais évidemment, du même coup, ce qui m'est apparu, et c'est là que je vais te rejoindre d'une certaine façon peut-être, et puis on va ouvrir la discussion, c'est le noyau de ma conclusion, c'est que... cet universalisme est très beau, évidemment. Bon, il est très beau. Hein. Bon, c'est une grande idée, hein, on pourrait dire. C'est une grande idée. Et ne croyez pas du tout que cette idée me soit, comment dire, que je la rejette. La question n'est absolument pas là. Alors, non seulement je ne la rejette pas, mais je pense que nous en sommes tous dépendants, que d'une certaine façon, c'est elle qui fonde notre existence commune, notre existence sociale. Bon, et en même temps, si on se penche sur la question de savoir comment elle est instituée, comment elle passe dans la pratique, comment elle se fait histoire, si vous voulez, et ça dure maintenant depuis 2 siècles, alors on débouche sur quelque chose de terrible. On débouche sur quelque chose. J'espère que je n'ai pas fait trop de pathos. Hein, bon, on débouche sur quelque chose de dramatique. Bon, qui m'a paru être le cœur de la contradiction propre à l'universalisme civique bourgeois et qui a évidemment un rapport intrinsèque avec le sujet, le genre de sujet qu'est le citoyen, les différences entre les sujets qui sont tous des citoyens. Bon, je l'ai énoncé sous une forme volontairement provocatrice. C'est le début de mon texte de conclusion. Et de là, vous devinez peut-être comment on finit par en arriver à la question du mal-être, hein, ou du malaise. Je l'ai énoncé sous la forme volontairement provocatrice suivante. La société dans laquelle la société moderne, bon, sous toutes ses variantes, libérale, socialiste, là encore, ce sont des nuances qui sont très importantes dans la pratique, mais qui constituent des variations à l'intérieur d'un même cadre. Cette société, naturellement, est une société dans laquelle existent plus que jamais des discriminations et des exclusions. Bon. C'est ton programme, au fond, hein, travail, sexualité, migration. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est que les exclusions sont l'envers des inclusions. Et quelquefois, d'ailleurs, sur les points les plus sensibles, par exemple la condition des femmes dans la société moderne, qui a évolué évidemment au cours des 2 derniers siècles, mais qui n'a pas éliminé purement et simplement le patriarcat. Hein, bon, l'exclusion n'est pas une expulsion, c'est pas un rejet. C'est pas un rejet. Bon, c'est une différenciation, c'est une hiérarchisation des droits, c'est une distribution des capacités. À la fin de ton livre, par exemple, tu te rallies à cette grande perspective d'une société du soin. Et alors, tu t'inspires des féministes américaines et tu dis, évidemment, ce sur quoi elles ont mis le doigt, bon, alors on ne va pas discuter maintenant pour savoir si on est d'accord ou non, mais ce sur quoi elles ont mis le doigt, c'est sur cette division du travail immémorial d'une certaine façon, qui fait que les activités de soins sont considérées comme spécifiquement féminines. Alors évidemment, d'une certaine façon, alors ça va depuis, c'est pas seulement la santé, le soin des malades, etc., mais c'est l'amour surtout. Hein, évidemment. Bon. Et alors, en tant que dévouement, bon. Et alors, évidemment, c'est une certaine façon, ça, c'est un exemple extraordinaire, ce que j'appelle différence anthropologique, dans son ambivalence même, qui contient les deux aspects. C'est valorisant et dévalorisant en même temps. C'est pourquoi tu dis, et je pense que c'est d'ailleurs un des aspects les plus politiques de ton livre, que une des tâches de l'époque dans laquelle nous entrons, c'est de défaire cette division du travail. C'est pas d'abolir le soin, hein. Ce serait plutôt de le généraliser d'une certaine façon, ou en tout cas de le désenclaver par rapport à d'autres activités. Mais c'est de remettre en question l'assignation des rôles. Bon, donc ça, on a un exemple très clair de ce qui peut fonctionner à la fois comme inclusion et comme exclusion. Mais moi, dans mon texte, évidemment, j'ai été plus radical que ça. Enfin, pas que toi, mais que bon, j'ai fait un pas de plus. C'est-à-dire que je disais tragique ou violent. C'est-à-dire, j'ai dit, au fond, dans une société dont le principe est l'égalité en droit, hein, et en dignité, pas seulement en droit, en dignité ou en capacité, hein, c'est pas seulement sur le fronton des mairies, c'est vraiment le principe moteur de l'idée que cette société se fait d'elle-même. Et d'ailleurs, personne n'ose contredire ça. Bon. Dont le principe est l'égal-liberté, quand on veut discriminer, à bon droit ou pas, hein, il y a des problèmes qui, pour moi, je le dis honnêtement, sont des problèmes presque insolubles. C'est peut-être les plus graves de tous. Hein. Ce n'est pas la souffrance au travail ou l'inégalité des sexes, mais c'est par exemple la différence entre les adultes et les enfants. Voilà une différence anthropologique massive qui est évidemment de l'ordre de l'inégalité, ou en tout cas de l'autorité. Bon. Et dont il est particulièrement difficile, on peut abaisser l'âge du droit de vote, mais bon, ça descendra pas jusqu'à 6 mois, ou même pas jusqu'à 8 ans. Bon, donc quand on veut justifier des discriminations, quand on veut instituer des inégalités, la seule possibilité logique de le faire, c'est d'expliquer que certains êtres humains sont moins humains que d'autres, hein, ou sont moins complètement ou moins parfaitement humains que d'autres. Bon. Parce que autrement, en vertu du principe, à partir du moment où ils sont pleinement humains, ils ont aussi deux droits, je dirais, l'accès aux droits. Bon. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, ça évolue. Historiquement, ça évolue. Ce n'est pas fixé une fois pour toutes. Les travailleurs manuels, au début du 19e siècle, étaient considérés comme des citoyens passifs qui ne pouvaient pas... C'était les dépendants, d'une façon générale, qui ne pouvaient pas avoir le droit de vote. Bon, les femmes non plus. Il a fallu en France attendre 1945, et plus tard que dans d'autres pays. Et ça n'a pas, de toute façon, résolu tous les problèmes du jour au lendemain. Mais il y a d'autres catégories. Les criminels, les fous. Hein, tout ça, c'est des vrais problèmes. Des vrais problèmes. C'est pas de mon point de vue, c'est pas du tout des oppressions, si tu veux, qui suffiraient de dénoncer pour s'en débarrasser. C'est une espèce de contradiction interne, qui est logée au cœur de l'universalité bourgeoise moderne, qui provoque son malaise, si vous voulez, et qui en même temps lui donne une espèce d'impulsion à évoluer ou à se transformer, sans qu'on puisse savoir d'avance jusqu'où, évidemment, ça peut ça peut aller. Et qui fait aussi que les sujets... Hein, j'ai presque renversé la façon dont je me servais de la catégorie sujet. Au lieu de penser essentiellement au fait que les gens sont assujettis, c'était l'autre côté de la grande équation de la philosophie française contemporaine, je me suis mis à penser surtout à la façon dont ils peuvent se subjectiver, hein, de façon à lutter, au fond, ou en tout cas à revendiquer la citoyenneté pleine et entière. C'est pour ça que à la fin, avec Marx, comme ça un peu symboliquement, je fais surgir la voix de l'ouvrier, mais avec Mary Wollstonecraft, la voix des premières grandes féministes de l'époque moderne, ou avec Fanon, la voix de l'ancienne esclave, qui tous revendiquent l'humanité pleine et entière en tant que droit d'accès à la citoyenneté. Et donc, j'ai au fond transporté la question du sujet. J'ai au fond transporté la question du sujet de ce vieux débat sur l'humanisme d'il y a 20 ans, d'il y a 25 ans, qui n'est pas complètement oublié, mais qui n'est plus peut-être l'essentiel, à ce nouveau débat sur l'universalisme que j'ai essayé de centrer sur la question des contradictions internes de l'universalité bourgeoise, bon, qui est peut-être encore la nôtre, ou en tout cas dont nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes déjà sortis. Et au fond, c'est ce déplacement que j'ai appelé essai d'anthropologie philosophique.
Merci, le temps étant arrivé, je te remercie grandement, Étienne.
Ben, c'est moi qui vous remercie, je ne sais pas comment vous réussissez à endurer tout ça.
C'est un plaisir pour nous ce soir.
Vous êtes extraordinairement accueillant et gentil. Merci beaucoup.
À toi.